Bien, bonjour à tous et à toutes et merci encore pour votre invitation et votre accueil. C'est toujours et encore une joie, encore et toujours une joie d'être parmi vous pour partager cette si merveilleuse parole de notre Seigneur. Les mains ou nos mains, pourquoi faire? Alors, non, bien sûr, je ne vais pas vous proposer un cours de médecine anatomique. Ni de pathologie, quoique cela puisse être intéressant, mais j'avoue ne pas en avoir les compétences. Néanmoins, notre réflexion de ce jour, outre son aspect physique, est davantage orientée vers le comportemental, la signification de nos attitudes gestuelles, avec son éclairage biblique. Alors, pourquoi ce sujet sur les mains? Parce que un texte a particulièrement attiré mon attention, en suscitant une réflexion et une recherche. C'est bien d'avoir une certaine curiosité par rapport à ce qui nous interpelle. Et notamment les versets que nous avons lus il y a quelques instants. Les enfants se sont approchés de Jésus, il leur a imposé les mains, il les a pris dans ses mains. Alors force est de constater que les mains sont citées de manière significative dans la parole de Dieu, étant attribuées soit venant du côté de Dieu lui-même, soit de la partie humaine, sa créature. Alors, notre interrogation cet après-midi, c'est à quoi servent nos mains? Et puis, je dirais, dans quelle catégorie les range-t-on? Enfin, pour les mettre dans les tiroirs. Hein. Rappelons quand même que le toucher est l'un des cinq sens de l'être humain. La main est l'organe qui est associé au toucher. Nos mains, vos mains. Vous avez vu, j'ai pas de tatouage, hein, mais il y a certaines choses écrites dessus. Alors, avons-nous des mains pour construire ou détruire? Aimer ou haïr? Donner ou voler? Bénir ou maudire? Caresser ou frapper? Écrire ou dénigrer? Compter ou dilapider? Montrer ou injurier, remercier ou ignorer, conduire ou perdre, des mains innocentes ou des mains coupables. Vous voyez, ça fait déjà un certain nombre de qualificatifs par rapport aux mains. Dans la Bible, la main est symbole d'activité, d'administration, de puissance, de protection et d'alliance. On retrouve tout cela dans les différentes terminologies que nous avons vues, nous avons citées quelques minutes avant. Ce que l'homme fait ou produit est l'ouvrage de ses mains. Nous verrons quelques exemples de versets où l'on trouve la citation et l'usage des mains, pour de bonnes actions ou de mauvaises. Dans la Bible, toujours, la main droite symbolise la force, la puissance et la souveraineté. Elle est aussi considérée, là je mettrai quand même un bémol, comme plus habile que la main gauche. Alors, c'est ce que j'ai trouvé comme écrit par rapport à cela. Bien que je sois gaucher. Alors, pour la petite histoire, je suis gaucher. Depuis mon enfance, hein, bien sûr. Et dans mon enfance, surtout quand je suis entré à l'école, je me souviens qu'en primaire, au cours préparatoire, donc j'étais très jeune, je devais avoir 3-4 ans, quelque chose comme ça, ma maîtresse m'avait attaché la main gauche dans le dos pour m'obliger à écrire de la main droite. Alors le problème, c'est que je n'y arrivais pas. Mon écriture était tremblante, incertaine, imprécise, et l'effort que cela me demandait me paraissait insurmontable. Bref, devant son grand désespoir, la maîtresse m'a rendu ma main gauche. Je la remercie aujourd'hui parce que elle m'est indispensable. Mais la droite me sert aussi beaucoup. Donc c'est pour ça que je mets un bémol sur le fait que la main droite est plus habile que la main gauche. Mais là n'est pas l'essentiel. Là n'est pas la considération. Parce que la signification est ailleurs. La main, il est écrit dans la Bible que la main droite de Dieu accomplit des miracles et abat les ennemis. La main droite est aussi la main d'honneur. On serre la main de l'autre pour se saluer avec la main droite. C'est comme ça. Et pas avec la main gauche. La main droite est celle du cœur. Elle est sincère et ne trompe pas. Dans 2 Rois, au chapitre 10 et au verset 15, nous pouvons lire ceci. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, écoutez bien, ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers toi? Et Jonadab répondit, il l'est. Il est question du cœur. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. La main est liée au cœur. Pas seulement physiquement, hein, par le sang, mais par les sentiments. Vous savez que, toi qui travailles un peu dans le commerce, quelque part, dans les devis, dans les accords, on envoie toujours un mot en disant « Votre signature, bon pour accord ou bon pour commande ou bon pour fabrication. Sinon, on ne fait rien. » Vrai ou pas? Enfin, chez nous, moi aussi, je demande aux clients de la société de renvoyer les bons pour fabrication signés. Mais jadis, les accords commerciaux n'étaient pas signés. Rien sur le papier. Mais après avoir accepté l'accord, après avoir discuté, poignée de main valait signature de contrat. Et gare à celui qui ne respectait pas ce contrat. Plus d'un s'est fait couper la main pour cela, au même titre que les voleurs. Pratique couramment utilisée dans certaines civilisations, pas très lointaines encore par ailleurs. Quelques autres exemples. Une main ouverte ou fermée est un signe de défaillance ou de générosité. Dans Deutéronome, au chapitre 15 et au verset 7, bon, il va y avoir un certain nombre de citations bibliques, hein, mais Dieu merci, parce que c'est écrit dans la Bible. Donc Deutéronome 15, verset 7, il est écrit ceci. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Tu ne fermeras pas ta main. C'est-à-dire que tu lui donneras. On ne peut pas donner quelque chose la main fermée. Des mains languissantes, un peu tremblantes, hein, traduisent la faiblesse et l'indécision. Dans Ésaïe, au chapitre 35, au verset 3, il est écrit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Une main tremblante ne sait pas trop quoi faire. Elle traduit quelque chose. Une main, on commence à en apprendre un certain nombre d'expressions, d'explications et de détails. Lors de l'offrande, ou de l'aumône, comme il est écrit, Jésus recommande que la main gauche de l'homme ne sache pas ce que fait la droite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il donne sans compter ni comptabiliser ce qu'il donne. Là, on le retrouve dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 3. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Tout à l'heure, nous avons chanté et les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Mettre sa vie dans les mains de quelqu'un signifie se donner entièrement à lui. Placer sa main sous la cuisse de quelqu'un, bon, ça se fait plus, hein. Mais écoutez bien. Placer sa main sous la cuisse de quelqu'un était la manière la plus solennelle de prononcer un serment valable, non seulement envers la personne elle-même, mais aussi envers ses descendants. Parce que la main se trouvait près des organes génitaux. Dans Genèse, au chapitre 24 et au verset 9, il est écrit ceci: le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Pas d'écrit. La main exprimait ce que le cœur voulait dire. Quand on voulait proclamer son innocence, on se lavait les mains en public. Surtout maintenant, il faut bien se laver les mains, hein, rappelez-vous. C'est une très bonne chose. Donc dans Deutéronome au chapitre 21 et au verset 6 et 7, il est écrit ceci: tous les anciens de cette ville la plus rapprochée du cadavre laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront: nos mains n'ont point répandu ce sang et nos yeux ne l'ont pas vu se répandre. Job, chapitre 9 et verset 30: quand je me laverai dans la neige, quand je purifierai mes mains avec du savon. Donc Psaume, chapitre 26, au verset 6, je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Les mains expriment là la pureté du cœur. Je suis innocent. L'exemple le plus connu, je pense, pour nous, plus contemporain, va-t-on dire, se trouve dans Matthieu, chapitre 27 et au verset 24. Vous savez là de qui on parle? On parle de Pilate. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, fit apporter un récipient. Il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : Je suis innocent, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. On dit encore aujourd'hui, je m'en lave les mains. Ça veut dire, je n'ai rien à voir avec ça. Ça ne me concerne pas. Je n'en prends pas part. Je n'y prends pas part. Pour des raisons rituelles, les pharisiens se lavaient les mains soigneusement avant le repas. Et d'ailleurs, ils ont reproché après aux disciples de ne pas se laver les mains avant le repas. Parce que là, on ne parlait plus de tradition. Jésus a montré que le cœur avait plus d'importance que la tradition. D'ailleurs, dans Marc, au chapitre 7, les versets 2 à 4, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, des mains non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition, au rituel des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être lavés les mains. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, ainsi de suite. La tradition voulait que. Mais la tradition ne veut pas dire que le cœur est concerné. Jésus voulait montrer que le cœur est concerné dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous exprimons avec nos mains. Applaudir des deux mains peut exprimer la joie ou la jubilation. Deux Rois, au chapitre 11 et au verset 12, le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et loignirent. Et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Psaume, chapitre 47 et au verset 2, d'ailleurs il y a un cantique tiré de cela, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Tout à l'heure, quand tu as fait ta présentation, on s'est applaudi mutuellement. D'ailleurs, merci, c'est la joie d'être ensemble, de s'accueillir. Nos mains ont exprimé un sentiment. Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 12, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. » Il y a un chant aussi là-dessus. Hein. « Et tous les arbres de la campagne battront des mains. » On ne va pas laisser les arbres battre des mains. Nous allons battre des mains, hein, à l'accueil du Seigneur. Mais on peut aussi applaudir par mépris. Job, chapitre 27 et au verset 23. Vous souvenez, vous avez lu Job en entier, hein, il y a quelque temps. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Oui, bonnes actions et mauvaises actions. Taper des mains, donc pour exprimer la joie, mais pour exprimer aussi le mépris. Maintenant, on dirait on siffle. Et applaudir des deux mains peut aussi exprimer la colère. Nombre, au chapitre 24 et au verset 10, la colère de Balak s'enflamma contre Balaam, il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà trois fois. » Il frappa des mains. Ézéchiel, chapitre 21, verset 19. « Et moi aussi, je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. » Vous voyez, les mains, il n'y a pas tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut lire ? De l'aide, de la révolte, écrire, décrier, saluer, l'amour, la haine, la caresse, la violence, la paix. Voyons la main de Dieu. Il est écrit que Dieu bénit. Deutéronome, au chapitre 2 et au verset 7, « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Dieu a sauvé les Israélites de la main des Égyptiens. Il a fait ouvrir les mains de Pharaon pour lâcher son peuple, car il les tenait les mains fermées. Il les tenait emprisonnés. Exode chapitre 3, verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et puis, parlons de Jésus. Un exemple, Jésus a guéri l'homme à la main sèche. Matthieu, au chapitre 12 et au verset 10, « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. » Une main qui ne servait plus. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» Ça, on reconnaît le côté un petit peu vicieux, tordu de la question. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas ?» Donc, là, il est question de la main aussi, pour l'en retirer. Combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et elle devint saine comme l'autre, comme la main gauche. Les mendiants tendent la main à la sortie du temple, maintenant dans la rue, à la sortie du métro, pour demander l'aumône, pour demander quelque chose. Nos mains peuvent exprimer la honte, la confusion, ou le péché. Dans Proverbes, au chapitre 30 et au verset 32, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, je vais la retirer, mets ta main devant ta bouche. C'est symbolique, mais ça empêche que l'on dise des bêtises. Dans Michée, au chapitre 7, au verset 16, « Les nations le verront et seront confondues malgré tout leur pouvoir. Elles mettront la main sur la bouche et ne trouveront plus un mot à dire. Elles seront confuses, abasourdies. » Et dans Matthieu, au chapitre 5 et au verset 30, « Et si ta main droite la main du cœur, et pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille pas dans la géhenne, dans le feu, dans l'enfer. Cela signifie, bien sûr, qu'il faut à tout prix s'éloigner de la tentation, parce que la tentation, si elle est consommée, engendre le péché. Vous savez bien, on a eu l'occasion d'en parler ensemble. Alors je vais arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons la prochaine fois et nous verrons que nos mains, nous allons encore citer des versets qui parlent de cela. C'est en faisant cette étude, je ne m'étais pas rendu compte à quel point on pouvait, le mot main était cité, vraiment dans différentes situations. On verra les mains pour guérir, on verra les mains pour conduire, pour se diriger, les mains pour bénir, les mains pour la prière, les mains pour frapper, les mains pour exprimer la tendresse, l'amour. Puis on terminera par encore les mains de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et puis, n'oublions pas que nos mains nous trahissent souvent, parce qu'elles expriment ce que notre cœur ressent. Je ne prends pas quelqu'un dans les bras si je ne l'aime pas, si je ne l'apprécie pas. Vous voyez ? Donc, il y a un lien entre les mains et le cœur. J'espère que vous êtes tous et toutes capables de vous serrer la main, de vous prendre dans les bras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci à vous.